morning edition from NPR News.
Nancy Tisan in the house.
Halim Radio Rosana Piperis.
Produce get in the radio.
So pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Le coup passa si près que le chapeau tomba. Le chef de cabinet de Keir Starmer vient de démissionner. Le Premier ministre britannique, lui, exclut de le faire pour l'instant. La famille royale s'en mêle ou comment l'affaire Epstein secoue plus que tout autre pays, le Royaume-Uni. Les réseaux sociaux en procès en Californie. Bientôt un message comme sur les cigarettes. Tweeter tue. Nous demanderons à Frédéric Seys qui remet le monde à l'endroit. Le reportage est en Albanie ce soir où les infrastructures touristiques ne résistent pas aux grosses pluies. La question de l'inadaptation au changement climatique est posé par les militants écolos.
Les autorités n'auraient jamais dû délivrer un permis pour construire le nouveau port à cet endroit. Si l'on prend en compte les contraintes géologiques, il aurait dû être construit ailleurs.
Un reportage signé Louis Seyé à découvrir autour de 18h42. On connaissait Kidor Dean. Les chercheurs britanniques viennent d'établir que Kidor réfléchit aussi et solutionne même dans son sommeil. Guillaume Audat nous explique ça dans Sous les radars. Et puis la BO du monde, connaissez-vous David Zé, le Bob Marley d'Afrique australe, Cyril Sauvageau, oui, et il vous raconte juste avant 19h. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Charles, how long have you known about Andrew and Epstein?
Ça se passe ce matin lors d'une visite officielle du roi Charles. Depuis combien de temps saviez-vous pour Andrew et Epstein, crie ce monsieur. L'avez-vous protégé des poursuites? Alors c'est pas la première fois que le roi est secoué lors d'une de ses visites. Pas la première fois qu'il est secoué par le même, autant que je sache. Parce que les voix sont assez similaires, mais quand même. Bonsoir John Henley.
Bonsoir.
Journaliste britannique au Guardian dans votre pays, le Royaume-Uni. Je le disais, le scandale Epstein éclabousse extrêmement fort. Ça tangue donc du côté de la famille royale, on va y venir parce que le prince Andrew, qu'on savait déjà très très impliqué, l'est de plus en plus à mesure que des emails sont dévoilés. Et puis le volet politique, c'est Peter Mandelson, nommé ambassadeur des États-Unis par Keir Starmer en 2024. Et là aussi, ça tangue sérieusement. Ce qui différencie peut-être le volet britannique du volet français d'ailleurs et d'autres, c'est que vos deux personnages principaux, si je puis dire, sont à la fois impliqués dans le réseautage de cette espèce de Woodswood élite, mais aussi dans le scandale sexuel. Ce qui est bien pire, vous cumulez les deux au Royaume-Uni. Et c'est ça qui met le pays en émoi, non ?
Oui, tout à fait. Et je pense aussi que, oui, ça a ébranlé évidemment la monarchie, la famille royale. Je pense qu'il y a très peu de Britanniques qui avaient encore des doutes sur Andrew. Le Andrew anciennement appelé prince.
Ouais, ouais. Désormais Andrew Mountbatten, en fait, puisqu'il n'a plus de titre. Ouais.
Je pense que ce qui choque le plus, je pense, c'est que tout cela était vraiment tellement prévisible. Andrew, on a connu ça, ça fait depuis une bonne dizaine d'années qu'on connaît ses prédilections. Et Mandelson, Peter Mandelson, donc ancien ministre de Tony Blair, qui a déjà dû démissionner à deux reprises dans le passé pour des affaires en gros de gros sous. C'était quand même prévisible. Je pense que ce qui choque le plus en Grande-Bretagne, c'est le fait que rien n'a été fait pour que ça n'explose pas.
Et au contraire d'ailleurs, alors la famille royale un peu, parce qu'on va aller à Keir Starmer très très vite, je voudrais qu'on évacue, si je puis dire, le problème de la famille royale.
Oui.
Parce que ce qu'on voit là, derrière le scandale sexuel, c'est même des échanges de documents. Il avait une fonction officielle, Andrew, quand il était prince Andrew.
Ça vient juste de sortir.
Et est-ce que ça, c'est de nature... Parce qu'un deal a été passé. On lui enlève tous ses titres, il ne passera pas devant la justice.
C'est ça le grand soupçon, évidemment. Et c'est pareil, je pense, avec Mandelson. On a maintenant l'évidence, les preuves sont là, dans les emails échangés entre Andrew et Epstein et Mandelson et Epstein. Mais oui, ils ont forwardé des documents officiels, confidentiels du gouvernement, parfois soit peut-être des informations sensibles qui auraient pu influencer les marchés. Andrew a envoyé genre 5 minutes après l'avoir reçu un rapport officiel de sa visite. Vous vous souvenez, il était à un moment envoyé spécial commercial du gouvernement à l'étranger. Il a fait une grande visite, 4 pays, Singapour, Hong Kong, etc. Il a envoyé le rapport officiel avant sa publication directement à Epstein.
Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait voir au Royaume-Uni, puisque ça on ne le savait pas, un procès Andrew Mountbatten contre la couronne britannique? Et
effectivement, il n'est plus comme c'est un citoyen
ordinaire.
Il a été déchu de tous ses titres. Il a été viré de sa résidence royale à Windsor. Il est maintenant au fin fond du Norfolk. Et on demande de plus en plus, on entend de plus en plus de demandes qui témoignent non seulement devant la police britannique, mais devant le congrès américain à Washington.
Alors, Keir Starmer, John Hanley, est-ce que le fusible de son chef de cabinet et chef de la communication d'ailleurs également vont suffire à faire retomber la pression? Seul à le penser.
Il y a aujourd'hui énormément de pression sur Keir Starmer. Il vient cet après-midi d'insister qu'il ne démissionnera pas, mais le fait est que son chef de cabinet, son principal conseiller, on peut dire, je pense, l'un des architectes principaux de la victoire du Labour, du Parti travailliste dans les élections de 2024, a démissionné, et aussi le chef de com. Le porte-parole du gouvernement, Tim Allen, a aussi démissionné. Il y a toute une flopée de ministres qui ont tweeté et qui se sont exprimés leur soutien à Keir Starmer cet après-midi. On note aussi qu'ils ont bien tardé à le faire, ce qui pourrait signaler quelque chose, mais il est vraiment sous pression.
Et on a l'impression qu'il est surtout sous pression de la part d'ailleurs, de notamment à la Chambre des Lords, de ses propres amis du Labour, enfin, qu'on entend de manière finalement très vocale, y compris comparé aux conservateurs, non ?
Tout à fait, il est très critiqué, et c'est clair que c'est quelque chose qui, comme on dit, si je peux traduire de l'anglais, les conseillers, l'excuse de Starmer, ça a été que il était conseillé par Morgan McSweeney, donc son chef de cabinet,
qu'il a été mal conseillé,
Mandelson à Washington, on dit toujours, et que Mandelson lui a menti sciemment sur ses contacts et ses relations avec Epstein. On dit en anglais que les conseillers conseillent, c'est les leaders qui décident. Et Starmer a persisté et signé avec la nomination. Ce qui est un peu, si je peux juste dire,
allez-y.
Je trouve ça quand même un peu, c'est assez frappant, je trouve, cette idée que Mandelson a été nommé malgré sa réputation, malgré ses 2 démissions dans le passé, etc. Évidemment, il a été nommé parce que il était comme ça. Il a été nommé parce que le Washington de Donald Trump, c'est un nœud vipère.
Il fallait un personnage de ce genre-là.
Quelqu'un qui maîtrisait les arts obscurs et qui pourrait naviguer dans ce genre d'environnement.
Ouais.
Donc c'était un grand risque. Ça n'a pas marché.
Donc c'était ça, regarde. Lui, il leur ressemble. Il a même les mêmes vices. Envoyons-le à Washington. C'est ça que ça dit, en fait.
Hein. Exactement.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une crise politique, que Epstein à son corps défendant, si je puis dire, puisqu'il est mort, a déclenché une crise politique au Royaume-Uni?
Ça a déclenché. Faut aussi dire, évidemment, que Keir Starmer, il était déjà contesté, il est déjà fragilisé. Je pense
Impopularité record de ce gouvernement.
Il a moins 66% dans les sondages, il est très contesté par une grande partie de son propre parti, de ses propres députés. on l'accuse de pas avoir vraiment de vision politique, de pas avoir d'idéologie, surtout de chasser sur les terres de l'extrême droite quand il s'agit de l'immigration. Pas vraiment avoir de boussole idéologique politique. Donc il était déjà contesté.
Il y a deux élections partielles à venir, d'ailleurs, qui, semble-t-il, vont le mettre en difficulté. Est-ce que le Parti travailliste n'a pas de toute façon intérêt à le changer ? Parce qu'on sait bien au Royaume-Uni qu'on peut changer un Premier ministre, vos systèmes électoraux sont compliqués, les élections ne sont pas à date fixe, et il n'y en a pas en vue là, maintenant, tout de suite.
C'est dans 3 ans et demi.
Exactement. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt de toute façon à le changer maintenant pour éviter de prendre de toute façon une catastrophe qui est presque déjà annoncée pour les 3 ans à venir ?
Il faut dire que les paris, et ça c'est très important en Grande-Bretagne, les paris, le marché des paris est maintenant suspendu sur le départ de Keir Starmer avant la fin de son mandat. Je pense que ça ne sera pas dans l'immédiat, mais je pense que c'est très très possible, je dirais bien avant la fin de l'année. Le problème, le grand problème évidemment, comme toujours, c'est qui le remplacerait. On parle beaucoup d'Angela Rayner, qui était l'ancienne numéro 2, mais elle-même a dû démissionner l'année dernière pour une histoire où elle n'avait pas bien déclaré les frais de notaire sur l'achat d'une résidence. Donc elle aussi, elle est un peu abîmée et il y a personne vraiment qui saute aux yeux comme un remplacement évident.
Il faudra d'ailleurs publier les documents internes à Downing Street sur les conditions de nomination de Peter Mandelson. Ça, pour le coup, les conservateurs l'ont obtenu. Est-ce qu'ils peuvent aussi exiger d'accélérer cette publication, précisément, pour mettre encore plus en difficulté Keir Starmer, ou pas?
Ça a abîmé Keir Starmer. Il a pendant toute une journée, même 2 jours, il a essayé d'empêcher la publication de ces... Paraît-il, il y a quelques 100 000 documents
à propos de
Mandelson et les enquêtes qui ont été diligentées sur lui. Keir Starmer a dit, il faut qu'on regarde avant pour être sûr qu'il y a rien qui risque la sécurité nationale, etc. Ce qui pourrait bien empêcher la publication totale de tous ces documents, c'est qu'il y a maintenant une enquête formelle, officielle, de la police à Londres sur Mandelson. Eux, ils disent on peut rien publier qui pourrait compromettre cette enquête.
Ce qui est frappant, John Elney, c'est que donc on entend les travaillistes, effectivement, donc le propre camp de Keir Starmer, on entend à la Chambre des Lords, on entend les conservateurs, on a entendu quand même la semaine dernière, mais finalement pas tant que ça, l'extrême droite, dont on a vraiment le sentiment qu'elle attend tranquillement, en sirotant un thé, que ces deux-là s'explosent l'un l'autre, et pour pouvoir arriver au pouvoir, c'est un peu l'effet que ça fait, non ?
Bah oui, tout à fait. Il y a Nigel Farage qui est, de façon assez extraordinaire, vu son passé à lui, qui semble être le porte-parole de la décence, ou se présente comme porte-parole de la décence et de la responsabilité, etc. C'est vraiment un gros, gros problème pour ça.
Ils ont intérêt, eux, à demander des élections anticipées, ça a du sens ou pas du tout ? Ou est-ce qu'il faut laisser tranquillement le gouvernement se déliter et puis ensuite ils s'assieront sur les mêmes sièges?
Pour l'instant, Starmer, il est assez déterminé, il s'accroche, il s'accroche. Je pense que Labour n'a vraiment aucun intérêt à organiser des élections anticipées. Ils attendent sans doute l'élection partielle à Manchester le mois prochain et les municipales qui doivent suivre au mois de mai. Je pense que ce qui est le plus probable, c'est un départ de Starmer probablement après les municipales.
Allez, vous reviendrez nous en parler. John Elney, merci beaucoup. Vous êtes journaliste au Guardian. Merci encore d'être passé chez nous. La suite, c'est vous, Frédéric Seix, si vous remettez le monde à l'endroit.
Instagram, Facebook, YouTube, aux États-Unis, les plateformes en procès pour être trop addictives.
Et c'est juste après ça. Wet Leg et Davina McCall. On les a déjà eus ici, les Wet Leg, mais vous vous souvenez, Davina McCall, c'est une ancienne présentatrice de télévision. Voilà, vous savez tout. Le Monde à l'endroit, c'est Frédéric Seyss.
Fabienne Synthèse.
C'est vrai, c'est
le 18-20.
Et donc Frédéric, les réseaux sociaux devant la justice aux États-Unis.
Qui est responsable de la dépression de Kelly? Cette jeune femme californienne âgée de 20 ans poursuit en justice les plateformes numériques. Elle les accuse d'avoir dégradé sa santé mentale, d'avoir contribué à son anxiété, de l'avoir maintenue sous dépendance. Depuis des années, Kelly s'est inscrite sur les réseaux à l'âge de 10 ans. Le procès débute aujourd'hui devant le tribunal de Los Angeles. Alors les avocats de la jeune femme n'attaquent pas les contenus, par exemple les vidéos qui seraient jugées trop violentes aux États-Unis. Ces contenus sont largement protégés par la liberté d'expression garantie par le Premier Amendement. Alors pour contourner cette impasse, les avocats s'en prennent non pas au contenu, mais au contenant, c'est-à-dire les plateformes accusées d'avoir sciemment développé des interfaces addictives pour les utilisateurs. Les notifications incessantes, le défilement infini des vidéos, la lecture automatique, tout cela pour nous maintenir coûte que coûte le nez sur notre écran.
Et c'est donc un procès qui pose des questions de santé publique.
Oui, et il n'est que le premier d'une longue série. 22 procès du même genre sont programmés aux États-Unis ces prochains mois, avec toujours cette question de la responsabilité des plateformes. Encourage-t-elle notre addiction? Les avocats qui attaquent Facebook, Instagram et TikTok dressent un parallèle avec l'industrie du tabac. Dans les années 90, les cigarettiers avaient fait l'objet d'une vague de procès aux États-Unis, là aussi accusés de développer l'accoutumance et de cacher les méfaits de leurs produits sur la santé des consommateurs. Alors Mark Zuckerberg est-il le nouveau cow-boy Marlboro? Le fondateur de Facebook sera appelé à la barre du tribunal de Los Angeles la semaine prochaine. Ses avocats ont déjà dénoncé ce parallèle avec le tabac, fallacieux selon eux. Ils ont d'ailleurs même tenté d'obtenir qu'il soit interdit tout au long des audiences, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause.
Et partout dans le monde, Frédéric, ces grandes plateformes sont mises en cause.
Oui, aux États-Unis avec ses procès, en Europe avec la réglementation publique, chacun ses traditions. La France, l'Espagne, la Grèce, le Royaume-Uni ont déjà annoncé leur intention d'interdire les réseaux sociaux aux enfants et aux ados. Hier après-midi, la République tchèque a rejoint la liste, c'est l'Australie qui avait ouvert la voie. La question est devenue très politique. Il y a donc la santé mentale des jeunes, il y a aussi les données collectées par des entreprises étrangères. Le chinois TikTok a été contraint par Washington de vendre sa filiale américaine. Qu'il semble loin le temps où ces sujets des réseaux sociaux passaient pour secondaires, voire pour futiles. Tout récemment, le Premier ministre espagnol en a fait une priorité, hissée au même rang que l'Ukraine. Dans son discours la semaine dernière, Pedro Sanchez fustige les algorithmes qui manipulent nos enfants, je cite, ce qu'il appelle le Far West numérique. Alors en lisant tout cela, je me suis posé une question, Fabienne. Je me suis demandé, dans 20 ou 30 ans, quel sera notre regard sur l'époque actuelle où les réseaux sont en accès libre ou quasi pour les ados? Peut-être qu'on regardera ça comme nous, on voit aujourd'hui les cantines scolaires des années 50 qui servaient des verres de vin aux écoliers, souvenez-vous. Peut-être qu'on sera saisi d'une forme de vertige rétrospectif.
Souvenez-vous, comme vous y allez.
Souvenons-nous,
Frédéric,
globalement.
Merci beaucoup Frédéric, à demain. Le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour en Albanie, ce soir, et sa jeune industrie touristique, déjà fragilisée par les effets du changement climatique. L'exemple est à Durrës, c'est une ville portuaire en pleine transformation touristique, où les rues se retrouvent régulièrement sous l'eau. Le gouvernement rejette la faute sur l'imprévisibilité des catastrophes climatiques. Les militants de la société civile ont une autre explication, un développement des infrastructures à marche forcée et des décisions malheureuses. Le reste, c'est Louis Seyé qui raconte.
Vous voyez cette trace? L'eau est montée jusque là. C'est allé vite. Vous voyez, tout a été détruit.
Les marques laissées par l'eau sont encore visibles sur le mur. Dans une maison de fortune construite au milieu de la plaine au nord de Durrës, Nick et sa femme ont regroupé les meubles qu'ils ont réussi à sauver lors de la dernière inondation.
On nous a donné de la nourriture seulement 3 semaines après. Mais je n'ai pas besoin de nourriture. On a besoin de bois pour notre poêle. Là, je suis obligé de découper le sommier du lit pour que l'on puisse se chauffer.
Autour de ce quartier déshérité, les champs sont détrempés et les canalisations ont été réparées à la va-vite. Ces dernières semaines, l'Albanie a connu plusieurs épisodes de pluie intense, provoquant des inondations à répétition dans les villages comme au cœur des grandes villes.
On a déjà connu de petites inondations. Mais de cette ampleur, on n'en a jamais eu en 30 ans.
Inondations, canicules, incendies. Selon la Banque mondiale, en 20 ans, 95% des municipalités albanaises ont été touchées par des événements climatiques extrêmes. Si la fréquence et l'intensité de ces événements augmentent, de nombreux spécialistes pointent les choix et la mauvaise gestion des autorités. Près de la zone industrielle sur la côte nord de la ville, l'urbaniste Artan Kachani montre le nouveau système de régulation des eaux construit par la municipalité.
Voilà le nouvel investissement. Ce réseau d'évacuation des eaux, il a été construit à une altitude plus élevée que l'ancien, ce qui cause des problèmes pour évacuer naturellement les eaux de la ville vers la mer. L'un des autres problèmes majeurs, c'est qu'il mélange les eaux propres et les eaux usées. Le résultat, c'est ce qu'on voit autour de nous, une catastrophe pour l'environnement.
Deuxième ville d'Albanie et plus grand port du pays sur la mer Adriatique, Durrës est en pleine transformation. Grâce notamment à des financements émiratis, les autorités socialistes prévoient la construction d'une immense marina ainsi que d'un nouveau port industriel. Mais selon Artan Kachani, ce nouveau port qui est en chantier n'a pas fait l'objet d'études sérieuses.
Les autorités n'auraient jamais dû délivrer un permis pour construire le nouveau port à cet endroit. C'est l'entreprise qui voulait investir le port ici. Mais si l'on prend en compte les contraintes géologiques, il aurait dû être construit ailleurs.
À moins de 10 km de là, dans le cœur historique de Durrës, un autre chantier cristallise les critiques. La place Velliera et son nouveau tunnel routier régulièrement inondé. Le journaliste et activiste Guéry Emiri y voit la conséquence du système clientéliste qui ronge les marchés publics.
À chaque fois qu'il y a de fortes pluies, ce tunnel coupe la ville en deux puisqu'il se remplit d'eau et se transforme en un aquarium géant ou une grande piscine. Ces investissements à plusieurs dizaines de millions d'euros décidés par le gouvernement sont mal conçus et ils répondent avant tout à des logiques de corruption.
Alors que les événements climatiques extrêmes provoquent toujours plus de dégâts en Albanie, les autorités relativisent régulièrement l'impact des activités humaines. Face à la multiplication des inondations dans sa ville, l'adjoint au maire Gential Kalmi met en avant un nouveau projet en phase initiale.
Il y a un grand projet pour la gestion des eaux de ruissellement. C'est un nouveau système de canalisation pour Durrës qui va résoudre les enjeux liés aux eaux de pluie pour des décennies.
12 millions de visiteurs l'an dernier et une fréquentation qui a doublé en 5 ans, le gouvernement albanais mise beaucoup sur le développement touristique. Mais sans stratégie climatique concrète, cette évolution rapide semble déjà fragiliser les territoires et leurs habitants.
Louis Seyer pour le reportage, merci beaucoup. La suite ce soir, il faut se baisser pour la ramasser sous les radars. Et c'est vous, Guillaume Audin.
Sous les radars, dans le plus grand secret, jusqu'à ce qu'il fût ébruité, Rabat et Alger se sont reparlé de Sahara occidental.
Allez, la BO du monde, comme chaque lundi avec vous, Cyril Sauvageau.
En Angola, la résurrection d'une grande voie de l'indépendance, longtemps oubliée.
Allez, restez avec nous, les amis, le tour de la planète continue. Il passe par la Virginie, avec un titre repris déjà par Bob Dylan, par Nina Simone, Mr. Bojangles, par Steve Earls and the Dukes. C'est le choix de Djoubaka ce soir.
Another man Bojangles and dance for you. One I'd choose. Silver hair, ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. Jump so high, jump so high, and lightly touch down. I met a man who said New Orleans was dying now. It looked to me to be the very eyes of age. Here's a step. Said the name Bojangles and he danced a lick across the cell. He grabs his pants with better stance and he jumped so high. And then he clicked his heels.
And the Dukes dans leur version de Mr. Bojangle dans Un jour dans le monde et sur France Inter. Allez, il remonte de dessous les radars avec dans sa besace l'actualité internationale que vous n'avez pas vue. C'est Guillaume Audin. Ce villageois dans le sud du Soudan nous explique que la mort vient désormais du ciel. Sur le champ de bataille, des drones kamikazes font leur apparition.
Et ce drone dont nous parle cet homme, il a tué 52 personnes, essentiellement des femmes et des enfants. C'était le mois dernier. Une bavure venue du ciel, commente sobrement le journaliste Charles Amtaz, qui rapporte avec Olivier Jobard un document et des images rares, terrifiantes pour la chaîne Arte. La mort aux trousses, au plus près d'une ligne de front, en pleine mutation. En effet, cette guerre civile atroce, elle a changé de nature depuis que les milices rebelles répliquent grâce à leurs drones aux frappes de l'aviation gouvernementale. Ce sont les Émirats Arabes Unis qui très probablement fournissent ce matériel chinois aux paramilitaires du général Hemeti en lutte acharnée contre l'armée régulière du général Bourhan. Entre ces deux feux, une population exsangue et dans certaines villes exterminée. Ce fut le cas à El Fasher fin octobre dernier. 60 000 morts en deux jours, le pire massacre de l'ère moderne commis sous les ordres du général Hemeti qui, à la brutalité de ses hommes, ajoute désormais la terreur technologique de ces drones kamikazes.
Et voici un dossier explosif que rouvrent les Américains, celui du Sahara occidental. Sous leur médiation, Alger et Rabat se sont donc reparlés.
Et c'est à Madrid, en Espagne, qu'ont eu lieu ces discussions. Elles devaient, en principe, rester secrètes compte tenu du caractère très sensible de ce différend qui oppose le Maroc et l'Algérie. Mais c'est El Confidencial, ça ne s'invente pas, qui en a révélé la tenue des pourparlers quadripartites Maroc-Algérie, indépendantistes du Front Polisario et Mauritanie. Quatre acteurs réunis par les États-Unis pour relancer des négociations au point mort depuis des décennies. L'Algérie et le Front Polisario défendent l'autodétermination du peuple sahraoui. Le Maroc, pour sa part, veut imposer sa souveraineté sur le Sahara occidental, reconnu entre autres par Paris, ce qui empoisonne au passage ses relations avec Alger, mais ça c'est un autre dossier. Quant aux États-Unis, qui ont reçu les délégations en question au sein de leur ambassade en Espagne, ils veulent un règlement rapide, je cite, une priorité absolue, fondée sur une autonomie marocaine jugée réaliste, mais tout en poussant Rabat à l'élargir.
It is a common experience that a problem difficult at night is resolved in the morning after the committee of sleep.
L'étrange expérience du rêve peut nous aider à résoudre des problèmes, a écrit un jour le romancier John Steinbeck. Et bien la science vient de le démontrer. Il y a vraiment quelqu'un qui ronfle là derrière moi.
C'est peut-être vous,
c'est pas moi. C'est Cyril.
Non, c'est pas moi non plus.
Est-ce que vous êtes une rêveuse lucide, Fabienne?
Pas du tout.
Vous n'êtes pas une rêveuse lucide. Bon, une rêveuse ou un rêveur lucide, c'est quelqu'un qui en effet a conscience de ses rêves, qui est capable de s'en souvenir et de les raconter fidèlement. Et bien sachez qu'aux États-Unis, 20 rêveurs lucides ont fait l'objet d'une étude très poussée. Des chercheurs de la Northwestern University leur ont demandé de résoudre des casse-têtes en pleine journée. Imaginez trois carrés identiques, question comment les disposer pour former une figure à six côtés.
Ok.
Vous l'avez pas, évidemment, non, je le savais. À chaque énigme, un petit son était joué. Petit son rejoué le soir venu pendant que ses cobayes étaient endormis. Résultat édifiant d'abord. 1. Les trois quarts des participants ont raconté avoir fait des rêves en lien avec le casse-tête. Et puis 2. Lorsqu'ils tentaient de résoudre à nouveau ces casse-têtes, ils avaient deux fois plus de chances de le réussir. Comme Thomas, notre réalisateur, lorsqu'il apprend un morceau compliqué à la guitare et qu'il galère, c'est ce qu'il m'a raconté. Mm-hmm. Il le rejoue le lendemain et ça passe crème, peut-être parce qu'il a écouté le morceau pendant la nuit. En clair, la nuit porte conseil et c'est désormais prouvé.
Je me demande si ça marche pour la paix dans le monde. Cling ! Allez hop, c'est trouvé. Merci beaucoup Guillaume Audin, vous reviendrez demain. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute la musique que fait le monde en tournant, c'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
La BO du Monde ce soir en Angola. Cyril, vous nous emmenez à la découverte d'un chanteur disparu qui a marqué l'histoire de son pays.
En matière de musique angolaise, on connaissait surtout jusqu'ici la belle voix éraillée de Bonga, ce chanteur qui a su si bien exprimer la douleur de l'exil. C'est à la même époque, au milieu des années 70, que nous transporte la musique de celui dont il est question ce soir, David Zé, un autre chanteur angolais dont la courte carrière est étroitement liée à la période de l'indépendance. Là où Bonga chante du point de vue de la diaspora angolaise en Europe, lui a vécu de l'intérieur ce moment d'histoire. Nous sommes en 1975 et après des années de guérilla, l'Angola, cette colonie portugaise d'Afrique australe, obtient donc son indépendance. David Zé, de son vrai nom David Gabriel José Ferreira, enregistre dans la capitale Luanda un disque intitulé « Veuve de la liberté », un petit miracle musical marqué par l'euphorie du moment, un album réédité pour la première fois en intégralité un demi-siècle plus tard.
Et ce document historique, Cyril, fait revivre la voix de celui qu'on appelle alors le poète du peuple.
David Zé est l'une des voix de la révolution, une sorte de Bob Marley couleur locale. Avec ses acolytes Arthur Nunes et Urbano de Castro, il incarne une nouvelle génération d'artistes qui réinventent les airs traditionnels angolais et accepte de se mettre au service du nouveau pouvoir. À la tête de son orchestre, Zé devient une sorte d'ambassadeur culturel. Il va se produire un peu partout dans le pays, dans les casernes, sur les places des villages, mais aussi dans les autres anciennes colonies lusophones d'Afrique, du Mozambique à Saint-Thomé. Mais l'euphorie ne va pas durer à peine. Indépendant, l'Angola sombre dans la guerre civile. En 77, les anciennes factions de la guérilla se déchirent. Une tentative de coup d'État est mise en échec. Le régime reprend la main, se lance dans une répression qui fera plusieurs milliers de morts. David Zé fait partie des victimes de cette purge. Lui qui prônait la réconciliation est devenu une voix trop encombrante.
Après sa disparition, Cyril, sa musique est rayée de la carte. Elle sera même interdite en Angola pendant 10 ans.
Oui, il faudra des années avant que son souvenir ressurgisse et que David Zé devienne une référence pour l'opposition. À l'étranger, sa musique est peu à peu redécouverte. Elle apparaît sur des compilations thématiques. Elle bénéficie d'un coup de projecteur en 2010. Cette année-là, le rappeur new-yorkais Nas et le chanteur jamaïcain Damian Marley décident de le sampler sur ce titre en duo. En 2022, nouvelle étape dans la réhabilitation de la figure de David Zé. Une émission, pour la première fois, lui est consacrée à la télévision angolaise. Et voici donc maintenant la ressortie de son unique album de 1975 à l'initiative d'un petit label, Jazzy Bell. 50 ans plus tard, même sortie de son contexte politique et historique, il n'a rien perdu de son charme irrésistible.
Ce morceau s'appelle La lutte continue.
La lutte continue.
Et voilà, et ben, vous continuez lundi prochain, Cyril. Merci beaucoup.